Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.
Novembre 1918, signature de l'armistice, liesse populaire, place de la Concorde. La foule se réjouit, applaudit le retour des poilus. L'Europe va bientôt se couvrir de monuments aux morts. Partout, les anciens combattants militent pour que cela ne se reproduise plus. L'inflation a remplacé la stabilité monétaire de la Belle Époque. De nouveaux modèles politiques ne vont pas tarder à s'installer en Europe. Régime soviétique, fascisme, nazisme.
Écoutons Dominique Fouchard dans son intervention au festival Fou d'Histoire des 29 et 30 août 2015 qui s'est déroulé à Pressin. Un partenariat entre Les Historiales de Serge Revel et la librairie Majolire de Bourgoin-Jallieu et de l'île d'Abo. Elle revient sur cette longue guerre en évoquant la question du bouleversement que ce conflit interminable a provoqué dans les relations entre les couples et à l'intérieur même des familles. Dans cette évocation, elle tente de décrire comment des hommes et des femmes ont pu vivre le drame d'une séparation inscrite dans la durée. Rappelons que Dominique Fouchard a écrit un livre inspiré de sa thèse de doctorat soutenue en 2011, intitulé « Le poids de la guerre, les poilus et leurs familles après 1918 ». Ce livre est paru en 2013 aux Presses universitaires de Rennes. Écoutons-la, elle nous raconte un peu de nous.
L'armistice du 11 novembre 18 met fin donc à 4 années de guerre. Des années durant lesquelles les couples et les familles séparées ont sans cesse imaginé la fin de l'épreuve, anticipé et rêvé le moment des retrouvailles et du retour au foyer. L'intensité de l'émotion collective, racontée dans les témoignages à l'annonce de l'armistice, les descriptions d'explosions de joie, de délire même, même quand elles sont cruellement accompagnées lors de la douleur de ceux qui sont frappés par le deuil, donnent la mesure de cette attente partagée et si puissamment présente durant tout le conflit. Et en réalité, tout laisse à penser que le retour, qui est un véritable point de fuite de la guerre, commence bien avant le retour réel. Car dès la mobilisation, le retour est formulé avec force, comme si le départ ne pouvait s'envisager qu'en imaginant l'évidence du retour. Penser le retour, c'est rendre le départ possible, en évoquant par avance la certitude et la joie des retrouvailles, pour permettre de vivre moins douloureusement l'expérience qui s'annonce et la séparation forcée, en l'inscrivant d'emblée comme une parenthèse dans la vie. Dans l'expression du retour, vous allez le voir, se logent des paroles magiques qui doivent écarter ce que la guerre forcément promet à nombre de combattants et à leurs familles, la mort. Alors dans les maisons et sur les fronts, on a voulu croire à une guerre courte. On s'est quitté en datant le retour. Ce sera pour Noël. Une date qui permet la projection dans un avenir relativement proche et à Noël pour renforcer l'efficacité de la conviction. Mais la guerre s'installe dans les vies. Durant tout le conflit, qu'il s'agisse du retour définitif ou des permissions instituées en 1915, retour provisoire certes, mais retour tout de même, et avec la guerre qui dure, plus accessible que le grand retour, le retour donc reste une préoccupation constante, comme l'écrit le soldat Hippolyte à sa femme Félicie en novembre 1915. C'est la guerre, et là-dedans, pour nous, le principal, c'est le retour. Mais que le retour soit ardemment attendu, imaginé, anticipé, ne signifie pas pour autant que lorsqu'il arrive enfin, il aille de soi. Peut-être même le défi est-il plus grand encore du fait qu'il ait été tant rêvé. D'où revient-on et pour revenir où? Y a-t-il seulement, après ce qui a été vécu, un véritable retour possible? Entendu, le terme de retour, comme un mouvement rétrograde vers l'état ancien que l'on a quitté. Le sujet est important, car sur les 7 891 000 hommes mobilisés en France durant le conflit, 6 515 200 reviennent. Donc c'est un sujet qui concerne énormément de monde. Donc observer le retour des combattants en passant avec eux la porte des maisons, en tentant en tout cas de passer avec eux la porte des maisons, permet de comprendre pourquoi cette guerre continue de nous fasciner, d'aimanter nos intérêts et nos imaginaires. Car c'est dans les familles que l'onde de choc a sans doute été la plus profonde. Et c'est en observant les retours que l'on peut approcher l'importance du bouleversement provoqué par la Première Guerre et l'influence qu'elle a exercée sur le quotidien des familles, sur les relations entre les membres du groupe familial et sur la circulation affective en son sein. De toute évidence, la démobilisation intime n'obéit pas à la même temporalité que la démobilisation militaire. Le retour au foyer doit donc être approché dans un temps plus long qu'il n'y paraît, parce que durant tout le conflit, sa pensée, son anticipation ont entamé un processus dans lequel s'inscrit le retour tant attendu. Ce retour, se situe dans une trajectoire de réinvention, de reformulation de soi-même et de la relation aux autres. Donc pour comprendre l'importance du bouleversement social et intime que représente la Grande Guerre, il faut rappeler quelques chiffres. Dès le 1er août 1914, c'est une énorme proportion de la population masculine qui est appelée sous les drapeaux. Sur une population qui s'élevait en 14 en France à 41 630 000 personnes, 3,6 millions d'hommes passent brutalement sous l'autorité militaire. À l'automne 14, dans une France majoritairement rurale, et à l'heure où il faut préparer les récoltes, les 2/5 des hommes en pleine force de l'âge sont déjà partis. Donc en quelques jours, le changement est radical. Mécaniquement, toute la société est désorganisée et le bouleversement familial est donc massif. Le premier marqueur de l'expérience de guerre, c'est donc la séparation. Avec le départ des hommes qui provoque une sorte de béance dans les familles. La guerre modifie radicalement l'environnement familial et familier. Et pour faire face à cette brisure des liens intimes, pour la contourner, hommes et femmes de toute classe sociale prennent alors la plume. Et plus de 3,5 millions de lettres et de colis sont échangés tous les jours pendant le conflit. Donc dans ces correspondances, l'expression du retour, puisque je reste sur cette idée-là que je développe avec vous aujourd'hui, est un véritable point de rencontre pour ceux qui sont séparés. Et ces correspondances permettent alors d'approcher les imaginaires du retour, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on imagine du retour qui va arriver, et d'en souligner donc les enjeux. Le retour massif à l'écriture et à la lecture, durant la longue séparation, entraîne un regard sur soi et sur l'autre. Il provoque, cette écriture provoque, la pensée de la relation à autrui et les mots envoyés à l'autre participent à une réflexion profonde et intime quant aux attentes amoureuses et familiales. L'éloignement, la distance, la séparation, les épreuves, bien sûr, obligent à penser le couple et la famille. Et l'échange écrit avec les êtres dont on est séparé amène à formuler ces sentiments, sans doute pour la première fois. Plus encore, il les nourrit en obligeant cette formulation. Pour le dire dans des termes simples, le sentiment s'écrit et en s'écrivant, eh bien, il prend conscience de lui-même. Donc penser le retour, imaginer le moment des retrouvailles quand on est séparé, les premiers regards, les étreintes amoureuses, rêver à ce que sera la vie une fois l'épreuve passée et l'écrire à l'autre, aux autres, obéit à une forme d'urgence et revêt aussi une valeur performative qui ne peut échapper. « Adieu, ami, nous nous retrouverons », écrit ainsi Jules Isaac à sa femme Laure. Et cette affirmation du retour traduit l'impatience de retrouvailles forcément heureuses. « Il viendra cet instant adoré », certifie Marie-Thérèse à son mari Georges, tandis qu'Anatole déclare à son épouse que l'idée de nous retrouver un jour heureux ensemble fait ma vie et mon espoir. Cette expression est aussi prière, au sens propre, qui vient souvent clore la lettre et que l'on veut partager avec l'autre pour qu'elle soit infaillible. « Espère en mon retour », demande Marin à sa femme. La nécessité d'exprimer le retour est d'abord une façon pour les couples qui sont séparés et qui s'écrivent de conjurer la mort, en s'inscrivant dans un avenir qui ne fait aucun doute, une auto-persuasion si puissante qu'elle ne peut que faire barrage à une issue tant redoutée. Et s'accrocher à cette certitude permet de tenir dans les épreuves, malgré les doutes et les peurs. Et quand l'éventualité de la mort est formulée, « Si je ne revenais pas », écrit ainsi Marin, elle est souvent, quelques lignes plus tard, chassée pour laisser place à nouveau à la certitude du retour. « Pourquoi te dire tout cela? Tu le sais aussi bien que moi, et puis nous serons bien là tous les deux », ajoute-t-il, Marin, comme pour effacer l'idée terrible annoncée plus haut. Il n'y a pas d'inconscience dans cette affirmation d'un retour garanti, mais une nécessité vitale, qui n'échappe pas à Marin, qui poursuit. « Si tout va bien, je vivrai. J'ai confiance. Je n'ai pas vu notre enfant. Je veux le voir. Et j'ai l'intime conviction que je le verrai. Il le faut bien, n'est-ce pas ?» Donc croire au retour, c'est aussi continuer d'exister dans le présent, malgré l'absence. C'est tenter de garder vivant le couple et la famille d'avant la mobilisation. Les détails quotidiens racontés dans les lettres, les questions posées au sujet des enfants, s'inscrivent dans cette nécessité. En se mêlant à la conviction du retour, ils sont, pour les combattants absents du foyer, un moyen de continuer à participer à la vie familiale, de partager ces moments qui fabriquent les souvenirs que l'on évoquera plus tard, de garder leur place dans la famille, comme Léon, évoquant l'éducation à donner à sa fille, qui écrit à sa femme Alcée « Je m'y emploierai de mon mieux à mon retour ». Dans cet imaginaire du retour se développe alors toute une rhétorique de l'avant, colorée par les souffrances et les frustrations du présent, le foyer devenant le contre-espace du front et de la mort. « Seul refuge contre toutes les tempêtes, seul sauveur », écrit encore Jules Isaac alors. Cet avant, que l'on observe parce que l'on est séparé, que les épreuves vécues amènent souvent à idéaliser, à observer avec mélancolie, ou à considérer avec critique parfois, mais pour permettre à l'amour de s'épanouir au retour. Les lettres d'Anatole à sa femme sont ainsi jalonnées de références au bonheur d'antan. Il y évoque notre vie intime et heureuse d'autrefois, ces heures si douces, notre foyer où j'ai vécu si heureux, où il voudrait bien redevenir tranquille. La vie de couple et la sphère familiale sont devenues refuge face à l'adversité. Et c'est en prenant appui sur cet avant que s'élaborent, tels des rêves de papier, les scénarii du retour. Les qualificatifs employés pour caractériser la vie à venir d'après-guerre témoignent de l'attente très forte d'un bonheur simple, vécu dans la douceur du foyer, grâce au rapprochement intime de la famille, comme l'écrit Anatole, de la volonté d'une forme de retour aux sources pour retrouver l'essentiel. « Ah, la belle vie que j'entrevois douce !» écrit Constant à Gabriel. Tandis qu'Hippolyte rêve de marcher main dans la main avec Félicie. Que Léon évoque la joie de promenade en famille dans la nature. « Quand la guerre sera finie, écrit-il, nous prendrons tous le bateau et irons nous promener dans les bois. » Le couple et la famille sont alors chargés d'un pouvoir thaumaturgique pour soigner, particulièrement chez les hommes, qui, fragilisés par les épreuves qu'ils traversent, imaginent une vie familiale et conjugale qui fera oublier les souffrances, qui pansera les douleurs. « Moi, je veux être tout seul avec ma Georgette, loin de l'obus qui ne tuera pas, loin des nuits d'épouvantement qui s'allongent dans la boue des cadavres, loin des jours infinis de souffrances traversées. Souffle-moi à l'oreille ce qui berce et apaise », écrit ainsi Maurice à sa fiancée.
Comment ça va? Ne fais donc pas ces têtes-là, pour nous la guerre est finie. On va rentrer au pays. Pendant 4 ans, j'avais gardé le médaillon de mon aimé, serré tout contre mon cœur. Pour oublier ma douleur. Pour résister. Les vendanges seront terminées dans le village où je suis née, où sont passés mes copains. Ils sont restés à Verdun. Pourra m'apaiser. Pourquoi revenir si je ne peux bâtir un bel avenir pour deux? Je m'en vais loin du bleu horizon, cette enchaîne embrumée.
Couleur FM 97.1, vous écoutez Au fil des arts. Nous venons d'entendre Novembre 1918, une chanson qui a été écrite par Éric Collet. La musique est composée par Bertrand Leroy et elle est chantée par Pauline Collet. Elle a été interprétée pour la première fois en live en 2007 à La Grange. Malheureusement, il est absolument impossible de trouver quelque information que ce soit sur l'auteur, le compositeur et la chanteuse. Retournons avec Dominique Fouchard qui analyse les lettres écrites par les poilus pour conjurer la séparation.
Les lettres, devenues les 12 écrins des projets futurs, rendent compte d'un des enjeux essentiels de l'imaginaire du retour qui se construit dans la tourmente. La détermination à penser la guerre comme transitoire pour reprendre, retrouver une vie d'avant, fantasmée, et fondamentalement engager un processus de normalisation, tant matérielle, affective que morale. Mais alors que l'échange épistolaire semble autoriser la construction d'un futur commun, cette projection s'élabore en fait comme un monologue. Le risque est alors de voir le scénario que l'on s'est construit se confronter au moment du retour à une autre réalité, à l'imaginaire de l'autre et aux changements quotidiens qui ont eu lieu durant la longue séparation, même si ceux-ci sont souhaités circonstanciels et provisoires. On se retrouve avec ce que l'on a vécu pendant l'absence de l'autre et avec l'image que l'on s'est construit de l'autre et de soi-même. Cette image qui interroge la possibilité même d'un retour à ce que l'on a quitté et qui prouve combien le retour n'est pas seulement le retour de l'autre, mais aussi un retour sur soi. Nombre de témoignages expriment la conscience d'avoir changé et révèlent l'inquiétude d'un décalage qui pourrait mettre en péril le retour tant attendu. Et il nous faut alors prêter l'oreille à ce qui se joue pour un certain nombre de femmes dans leurs expériences de la guerre, et qui pour certaines déconstruit le cas et ébranle même le caractère d'évidence de la relation de couple d'avant la guerre. Le 17 novembre 1918, une journaliste de La Femme de France cite la lettre qu'elle a reçue d'une lectrice. Voilà ce qu'elle écrit. « Madame, je suis bien inquiète. Voici 4 ans que je suis séparée de mon mari. La guerre est sur le point de finir. On va me le rendre, je suis folle de joie, mais j'ai peur. Oui, j'ai très peur. Nous étions mariés depuis 6 ans lorsqu'il est parti. Nous étions très heureux, très unis, et nous n'avions jamais la moindre querelle. Car s'il était volontiers autoritaire, moi, je lui étais infiniment soumise. Je puis dire, madame, que pendant ces 6 années-là, je n'ai rien fait, rien, pas la plus petite chose, sans demander à mon mari son conseil, voire son autorisation. Quand il partit, madame, ce fut affreux. Je me sentais désemparée, perdue. Et puis, peu à peu, il a bien fallu que je me reprenne, que j'agisse. Et c'est là tout le drame, madame. J'ai appris à vivre, à penser par moi-même. J'ai organisé mon existence selon mes goûts qui, je le vois bien maintenant, ne sont pas toujours ceux de mon mari. Je me suis créé des amitiés, des habitudes, des petites exigences. J'ai conscience de ma personnalité. Madame, que dira mon mari quand il reviendra? Je l'aime plus que jamais, Mais notre amour ne peut plus être le même. Comprendra-t-il? Acceptera-t-il? Je prévois des heurts, des difficultés, peut-être de graves querelles de cette lutte entre son autorité légitime et mon indépendance légitime. Cette lettre pose de façon exemplaire la question d'autant plus forte que les espoirs placés dans le couple et la famille sont immenses, de la conciliation, plus ou moins heureuse, au retour des soldats, des expériences vécues. Et elle confirme combien le retour se situe dans une trajectoire de réinvention, de reformulation de soi-même et donc de la relation aux autres entamée pendant le conflit, obligeant alors à observer, pour un certain nombre d'hommes et de femmes, le chemin parcouru durant la séparation et la place de la période particulière de la vie conjugale et familiale de guerre dans la reprise de la vie commune. Une autre femme, Marguerite Le Sage, une bourgeoise de Lille, relate dans son journal intime en février 17 une visite que lui a faite un couple d'amis, M. et Mme V, qui lui disent « Vous étiez si timide, naguère. Votre mari ne vous reconnaîtra pas. Cette remarque me rend songeuse. Oui, j'ai acquis en quelque sorte une personnalité. Mais est-ce que ça plaira à Maurice ? Allons, quand il sera là, on tâchera de perdre cette personnalité. » Dans ces deux documents que je viens de vous citer, trois éléments au moins, parce que vous avez vu à quel point ils sont riches, et puis demanderaient à être développés beaucoup, méritent d'être soulignés. Le premier est l'amour qu'expriment ces deux femmes pour leur mari. Alors je fais juste une toute petite parenthèse. Évidemment, cet amour-là, il peut avoir aussi une valeur très normative, c'est-à-dire il faut aimer quand l'autre est loin. Hein. Donc bon, je ferme la parenthèse, mais ça a son importance. Hein. Donc le premier est l'amour qu'expriment ces deux femmes. Le deuxième est l'importance de la durée de la guerre et de la séparation. On le voit bien, comme l'écrit la première femme, elle a obligé peu à peu à s'adapter à l'absence. Et Marguerite, elle, dit « j'ai acquis ». Donc elle utilise le verbe acquérir, là on voit bien aussi qu'elle s'inscrit dans le temps. Donc elle dessine par là même le chemin personnel qu'elle a parcouru pendant l'absence de son mari et pendant cette période de guerre de la vie conjugale. Le troisième élément qui découle des deux autres est le terme qu'elles emploient toutes les deux, le terme de personnalité. Qu'elles emploient une personnalité qu'elles ont découverte du fait de la longue séparation, justement, et qui a obligé à, pour pouvoir continuer à vivre, tout simplement, à des adaptations quotidiennes, à des prises de décision, qui leur ont révélé une part d'elles-mêmes, même si c'est souhaité circonstanciel. Donc la formulation de cette découverte de soi est absolument capitale. Elle traduit comme une forme de nouvelle conscience féminine qui fait vaciller les représentations traditionnelles. Le regard que la vie fait poser à ces femmes sur ce qu'elles font et ce qu'elles sont interroge l'ordre ancien, présenté comme naturel, change la perception de soi et de la relation aux autres et fait alors advenir d'autres possibilités et un avenir que le passé vécu ensemble avant les épreuves n'avait pas laissé imaginer. Et c'est cette question de la transformation d'une prise de conscience dans le cadre de l'intime en réalité politique et sociale que pose le retour des hommes du front dans leur foyer. Bien sûr, et on le verra certainement tout à l'heure, on ne peut soutenir que cette perception de soi entraîne le bouleversement radical d'un ordre bien installé et que nombre d'hommes et de femmes aussi souhaite retrouver après les épreuves, comme le montre Marguerite, qui écrit qu'elle tâchera de perdre cette personnalité. Mais on sent bien que ça ne sera peut-être pas si facile. Donc différents indices amènent à penser que ce qui s'est joué dans la séparation ne peut s'effacer d'un coup d'armistice, et que la reprise de la vie commune ne peut balayer magiquement 4 années durant lesquelles de nouveaux équilibres se sont, par la force des choses et des événements, mis en place. Cela d'autant plus que la reconfiguration familiale qui se joue dans le conflit ne cesse pas avec la reprise de la vie en paix, mais est prolongée par les effets immenses et durables du conflit sur les corps, par l'intensité des atteintes physiques, sensorielles et psychiques qui pèsent sur les relations familiales et que je vous propose d'aborder maintenant. Parce que le retour, c'est d'abord les retrouvailles des corps, de ces corps qui se sont attendus et rêvés à distance, qui se sont éloignés parfois, et de corps qui ont souffert de la violence prolongée de la guerre. Les témoignages abondent qui disent l'insupportable obscénité de ce que les corps des combattants ont subi durant le conflit. La déshumanisation au sens d'une atteinte à la dignité et à l'intégrité de la personne humaine, provoquée par un mode de combat qui éclate les corps, qui déchire les peaux et les chairs. Avec la nouvelle puissance de destruction des armes, leur portée croissante et la longue durée de la guerre, on y revient encore, la violence imposée au corps des combattants est inouïe. La question du retour de ces hommes dans leur foyer est alors capitale, car il serait bien naïf de penser que la démobilisation militaire suffit à gommer cette expérience tragique et profonde. Nombre de documents disent les corps vieillis, diminués, dévoilent le travail d'usure que la guerre a opéré, comme ce témoignage de Paul, qui, comparant deux photos de son père, écrit « Entre ces deux photos, 7 ans s'étaient écoulés. 1912, veille de l'incorporation. 1919, libération. Sur la première, un beau jeune homme. Sur la seconde, un homme trop mûr, au visage dur et fermé, 40 ans d'apparence. Durant tout l'entre-deux-guerres, les médecins s'inquiètent des séquelles de guerre sur les corps des hommes, de la faiblesse de leur prise en charge, et ils soulignent l'impact de la violence infligée aux sens durant le conflit, de ces traces sensorielles de guerre qui pèsent sur le comportement des hommes qui reviennent. Ils font, ces médecins, preuve d'une imagination débordante pour qualifier les états que la guerre a fait naître. Donc ils évoquent les mutilés affectifs, les invalides nerveux de l'émotivité, les anxieux, les infirmes du système nerveux, les cœurs irritables, les autistes affectifs, les amnésiques de l'affectivité. Ils nous donnent à voir des hommes tristes, inquiets, taciturnes, susceptibles, impulsifs, coléreux, à l'émotivité excessive, devenus intolérants, je cite, au bruit, au choc, aux trépidations, aux lumières vives, sursautant au moindre bruit ou incident, ayant des sautes d'humeur inexplicables, développant un état d'irritation intolérable devant le bruit ou la turbulence d'un enfant. Ce qui apparaît dans ces descriptions, ce sont les blessures du domaine affectif, du rapport à l'autre. Cela illustre la difficulté à retrouver, après les épreuves, l'ordinaire de la vie en paix, et jusqu'à la douceur d'un foyer, même si cela peut étonner. Un foyer qui fait résonner un passé de guerre dans un présent qui ne peut s'en défaire. Même si, comme le rappelle justement l'historien Bruno Cabanne, il faut veiller à ne pas surévaluer la dimension pathologique du retour et à ne voir que des retours épouvantables, les corps, atteints dans leur intimité et dans l'estime de soi, portent, après les épreuves, l'empreinte d'un conflit qui entre au cœur des maisons. Ainsi, dans un texte de 1934, opportunément intitulé « Je ne peux pas oublier », Jean Giono écrit « Je remplissais la chambre où je parlais de fantômes boueux aux yeux mangés par les oiseaux. » La chambre, en effet. Car c'est sans doute dans cet espace alcôve de l'intime que la possibilité même du retour tel qu'il a été imaginé et anticipé est le plus fortement questionnée. Là où les corps se retrouvent, sans phare, dans cet espace qui fait vibrer les traces d'un passé jamais mort, qui témoigne, pour faire écho au concept développé par le psychanalyste Didier Anzieux, de ces déchirures qui résonnent d'expériences que l'on ne peut taire, dans ce temps du retour qui donne une autre vie à la guerre, celle de sa mémoire, et qui devient le lieu d'expression involontaire des atrocités vécues, révélateur des tensions du retour entre le dire et le taire, entre le héros et le sensible. S'il est un élément qui revient de façon récurrente dans les sources, c'est bien la façon dont la guerre continue de hanter les hommes durant leur sommeil. Ces agités de la nuit, comme les nomme en 1932 le médecin Paul Boudin. Dans de multiples études de cas d'anciens combattants, les médecins mentionnent la présence de troubles du sommeil qui rendent leur nuit difficile et qui pèsent sur leur capacité de travail, de concentration, sur leur patience. La nuit est alors le temps de l'angoisse, le lit, l'espace des cauchemars, dans lesquels certains revivent avec horreur le terrible spectacle du front. Les morts du champ de bataille, affreusement mutilés, tombés dans la boue et le sang et abandonnés dans leur décomposition, me donnent le frisson. Leur vue sous la clarté du jour m'est pénible au-delà de toute expression et me poursuit la nuit, explique un ancien combattant. Tandis que Louis Althusser, se remémorant son père, écrit « La nuit, très souvent, il émettait en dormant de terribles hurlements de loups, d'une violence insoutenable. Ma mère ne parvenait pas à le réveiller de ses cauchemars. » Et le professeur Louis Croque explique que dans les années 1960-70, donc vous voyez un grand nombre d'années après, appelé auprès d'anciens combattants qui lui avaient été signalés par des confrères comme criant et s'agitant dans leur sommeil, ceux-ci lui avaient révélé qu'il souffrait de ces troubles, ainsi que d'anxiété, de reviviscence ou de phobie, depuis leur démobilisation, mais, je cite, « qu'ils trouvaient normal d'avoir de tels souvenirs après ce qu'ils avaient vécu dans les tranchées, et qu'il ne leur était jamais venu à l'idée de consulter pour ça. » Cette remarque, qui peut paraître anodine, est pourtant lourde de sens.
Marchait toujours au cri de liberté, cherchant la route glorieuse qui l'a conduite à l'immortalité. Tous ces fiers enfants de la Gaule allaient sans trêve et sans repos, avec leurs fusils sur l'épaule, courage au cœur et sac au dos. La gloire était leur nourriture, ils étaient sans pain, sans souliers. La nuit, ils couchaient sur la dure, avec leurs sacs pour oreiller.
Le régiment de Saint-Prévé marchait toujours au cri de liberté. Et dans la route glorieuse, il est conduit qu'un immortalisé.
La musique nous ramène au conflit. Des morts par millions, des faits d'armes terribles, il faut galvaniser les énergies. Le régiment de Sambre-et-Meuse est une marche militaire qui était très populaire auprès des poilus. La chanson a été composée en 1872 par Planquette, à un moment où la France ne s'est pas remise de la défaite de 1870 et ne cesse de penser à la revanche. Elle évoque les héros des guerres révolutionnaires et connaîtra le plus grand succès en 1918, au moment de la victoire.
Au-delà de l'inscription durable du traumatisme, elle révèle la conscience des séquelles de guerre et le sentiment de leur inéluctabilité, ce qui met en doute l'idée d'une accoutumance à la cruauté d'une guerre qui a tant fait souffrir, d'une insensibilisation à la souffrance, la sienne et celle de l'autre. Lorsque ces anciens combattants expliquent qu'il ne leur était pas venu à l'idée de consulter pour ça, la valeur, qu'on pourrait qualifier de anaphorique, hein, de ce « ça » qui englobe tout, hein, ne peut échapper. Ça rappelle, pour ceux qui ont en mémoire, je pense là au voyage de Céline, hein, au voyage au bout de la nuit, la première phrase, c'est « ça a commencé comme ça hein, » dans ce texte. Et puis ça rappelle aussi le « plus jamais ça » du pacifisme, de l'entre-deux-guerres. Et on voit bien que ce « ça » porte en lui, hein, comme un fantôme, cette cruauté de guerre qui ne trouve pas d'expression à l'échelle collective, même médicale, mais qui se déploie dans l'intime. On peut aussi supposer que ce silence sur ces nuits traduit l'extrême difficulté à mettre des mots sur une cruauté qui échappe au langage, une fois la paix revenue. Lorsque les pratiques de guerre et leur cortège d'atrocités sont rejetées, justement du fait des immenses souffrances qu'elles ont générées et des comportements qu'on ne peut plus assumer. En d'autres termes, ce qui a été fait et vécu durant le conflit ne peut être dit, mais en même temps ne peut être tu, agitant donc la mémoire et les corps, et c'est dans l'intime que cette contradiction se manifeste de façon très significative. Cette tension, cette déchirure intime que le retour exacerbe, parce que l'homme n'est plus le combattant, mais doit redevenir le mari, le père, le civil qui a déposé les armes, est particulièrement visible dans le domaine de la sexualité masculine. Malgré la difficulté à évaluer cette question, dans la pudeur, vous en doutez, les non-dits, ou même l'intérêt pour cette question, font écran à l'analyse, de nombreuses études de cas médicales font mention des difficultés sexuelles que rencontrent nombre d'hommes qui retrouvent leurs femmes. Dès le conflit, à l'occasion des permissions, les médecins sont impressionnés par l'augmentation du nombre d'hommes souffrant de ce qu'ils nomment des échecs sexuels. Ce qui m'a surtout frappé ces dernières années, écrit William Stekel, donc un médecin, c'est l'augmentation de l'impuissance masculine parmi les participants à la guerre. J'avais presque, à chacune de mes consultations, un ou plusieurs de ces hommes dont l'origine des troubles était presque toujours identique. C'était pour la plupart des individus qui désiraient intensément revoir leur femme, à leur grand effroi, ils constataient leur impuissance dès leur premier contact intime avec leur femme. Le problème est d'ailleurs suffisamment sérieux pour que certains médecins s'attachent alors à le définir. Et le psychiatre Angelo Ehnart invente en 1917 l'expression de « mal des tranchées ». Après le conflit, la persistance de ces difficultés ne semble guère faire de doute, comme en témoigne l'histoire de ce lieutenant de 44 ans qui, je cite, « revenu totalement impuissant du front, consulta immédiatement son médecin de famille. Ce dernier le tranquillisa. Un grand nombre d'officiers revenant de la guerre souffrent de ces troubles, lui dit-il. C'est absolument typique. » Donc obsession, phobie intrusive, la mémoire de la guerre vient donc déchirer la vie intime et sexuelle de ces hommes qui ne parviennent pas à la mettre à distance et qui, célébrés à l'échelle collective comme des héros, qui ont su, par leur qualité virile, emporter la victoire, sont dans leur vie privée, atteints dans leur virilité même et ébranlés dans leur identité masculine. En 1938, le médecin Léon Strominger se désole du fait que l'humanité aura encore longtemps à souffrir des conséquences de la guerre. Peu d'hommes heureux, écrit-il, auront la chance de récupérer leur vieille faculté d'aimer. Le cas de Casimir, présenté dans le bulletin de la Société clinique de médecine mentale en 1930, est instructif. 33 ans, blessé par un éclat d'obus à la tête, il conserve une cicatrice s'étendant du front au milieu de la joue. D'après renseignements donnés par sa famille, depuis sa blessure, il aurait toujours été bizarre. Démobilisé en 18, il se marie en 21, puis achète un fonds de commerce de vin à Paris. Mais ses affaires ne prospèrent pas. Alors commence un petit délire de supposition. Une obsession s'installe, sa cicatrice. Défiguré par sa blessure, il croit faire peur au client. Il ne peut plus avoir de rapport avec sa femme. Alors Casimir, c'est un cas intéressant parce qu'il est célibataire au moment du conflit. Donc pour lui, il ne s'agit pas de retrouver, mais de fabriquer, de créer de sa vie intime et amoureuse avec une femme qu'il épouse 3 ans après, malgré sa cicatrice au visage qui n'a absolument pas empêché son mariage. Or, le lien qu'il fait de lui-même entre ses échecs professionnels, son incapacité à avoir une relation sexuelle avec sa femme et sa cicatrice au visage, qui lui est insupportable, témoigne de la puissance de ce que j'évoquais tout à l'heure, cette déchirure du moi-peau, de la puissance de l'effraction de soi qui s'est jouée pendant la guerre, dans cette déchirure de l'enveloppe corporelle, de la dépréciation profonde de l'estime de soi qui empêche la relation aux autres. Parce que cette cicatrice le fait monstre, comme si Casimir n'était plus que cette cicatrice-là, qui devient donc le dégoût de soi tout entier, le dégoût d'un corps sanguinolent où la mort a sali la vie et l'acte d'amour. Ces hommes peinent alors à retrouver ou à trouver leur place d'amant et d'époux, après le grand bouleversement des familles. La dimension corporelle du retour montre combien la normalisation que j'évoquais tout à l'heure, attendue du quotidien, se heurte aux réalités intimes. Car cette extrême sensibilité est une forme de mutation des violences de la guerre, qu'elle se manifeste sous la forme d'une irritabilité, d'une impatience, d'une exaspération vis-à-vis de l'entourage, ou d'une mélancolie, d'un renfermement sur soi qui isole des autres et qui trouble l'harmonie de la vie en paix et pèse sur les relations entre les membres de la famille qui se tissent au retour des hommes. Ginette écrit ainsi pour demander conseil au journal féminin Ève. Nous sommes en 1920. « Madame, pensez, j'ai 18 ans. Et mon fiancé qui revient de la guerre en a lui 22. Lui, si en train, aimant la danse, le tennis, le bruit, les jeux, le voilà tout pensif. Il ne veut plus que je danse. Il est plongé tout le jour dans des livres de philosophie, d'économie politique. Il veut que je fasse la cuisine, le ménage. Il parle d'aller vivre à la campagne, d'élever des poules, des lapins, de cultiver des légumes et des fleurs. Mais je déteste ça, moi, madame. Et pourtant, je l'aime. Seulement, il a tellement changé que je ne comprends plus. » Ce sont bien ici, on le voit, les désirs et les places de chacun dans le couple, qui questionnent la relation qui doit se réinventer, en intégrant les changements personnels que la période de guerre a donné à vivre. Et de toute évidence, le passage du seuil de la maison n'est pas en soi le gage de la réussite du passage de la vie en guerre à la vie en paix. C'est aussi ce qui apparaît quand on tente de se placer dans ce temps du retour à hauteur d'enfant. Donc le retour des hommes au foyer, c'est d'abord et immédiatement la découverte pour les enfants dans leur univers quotidien de l'empreinte physique de la guerre sur le corps des hommes. La découverte des blessures qui fait entrer la violence de guerre dans les maisons et donne à voir la brutalité des combats qui s'est inscrite dans les chairs. Découverte qui prend toute sa mesure quand on rappelle l'ampleur du phénomène. Sur les 6 515 200 hommes qui rentrent, 2 800 000 ont été blessés. 300 000 sont mutilés. 2 millions souffrent d'une invalidité d'au moins 10%. 15 000 sont des gueules cassées. Et l'historien Jay Winter estime qu'il faudrait ajouter 15% à ces chiffres pour approcher un tant soit peu la vérité de cette catastrophe humaine qu'a représenté la guerre. Alors que voit-on? Quelle réaction a-t-on de la part des enfants? Comment peut-on se situer à hauteur d'enfants pour observer comment ces enfants reçoivent ces hommes qui reviennent? Alors bien sûr, tout d'abord pitié. Pitié, compassion et tristesse à la vue des hommes blessés sont les sentiments que confient souvent les enfants à leurs journaux intimes ou lors d'enquêtes menées dans le cadre scolaire. Tandis que les sources secondaires, c'est-à-dire celles écrites plus tardivement, disent le retentissement de la blessure du père sur la prétendue innocence de l'enfance. Blessure qui abîme l'évidence de la puissance protectrice paternelle et qui agit sur l'ensemble de la famille. « J'étais gai aussi, écrit Louis, mais inquiet raisonnateur de mes parents, inquiet en permanence pour la santé déclinante de mon père. » La rencontre avec l'image diminuée du père, et pour les enfants ayant gardé un souvenir de celui qu'il était avant le conflit, et pour tous ceux qui s'en sont construits une représentation correspondant au discours véhiculé sur la grandeur des combattants, un choc qui reste gravé dans la mémoire, comme en témoigne Marie, qui a gardé des années plus tard, encore si vive à l'esprit, la scène de retrouvailles avec son père. Nous nous dirigeons directement à l'hôpital pour retrouver mon père. Nous sommes très heureuses de le revoir. Mais lorsque, péniblement, du fond de la grande salle où sont alignés de nombreux lits, il vient à notre rencontre, ma mère et moi restons interdites. Cet homme, que nous avons connu très grand et très fort, est devenu une loque. Il marche d'un pas hésitant et le dos courbé. C'est parfois aussi l'aveu d'une forme de dégoût, d'une peur, qui s'exprime malgré l'immense difficulté à en faire part. Une infirmière, Henriette Rémy, raconte les retrouvailles de Gérard, 3 ans, avec Lazé, gueule cassée de la Grande Guerre. Lazé prend son fils dans ses bras. Et là, Henriette écrit, un cri perçant. Gérard agite ses bras, ses jambes. Son père déconcerté le pose à terre. Et Gérard s'enfuit, plus vite encore qu'il n'est venu, en criant d'une voix terrifiée, « Papa, papa, papa !» On voit bien ici que c'est la jeunesse de ce petit garçon qui permet l'expression de la terreur, car il est trop petit pour la contenir. Ce type de témoignage est très rare chez les enfants qui sont plus grands, car ce serait mal, ce serait aimer moins et faire preuve de peu de reconnaissance pour ces pères qui ont combattu pour eux. Et dans ce cas, pour les plus grands, on voit que le discours est déplacé pour pouvoir exprimer quand même le sentiment. Louis focalise ainsi son angoisse sur le corset que devait porter son père, et il écrit « Il portait en permanence sous ses vêtements ce lourd corset de cuir et d'acier que je voyais parfois et qui m'effrayait. L'objet permet alors l'expression de l'inquiétude, voire du dégoût, sans entacher l'image du père.
Statufiés sur la place, ils contiennent à jamais leurs plaintes graves et poilues. Au-dessus de la Marne, sur le chemin des dames, la terre est brûlée. Tant de prières fermentes dans le repos de Verdun et du soldat inconnu. Les sillons ont gardé la douleur et le sang versé. Ils allaient d'un pas lourd dans les mauvais brouillards et dans l'horreur des poilus. Bleu horizon, baïonnette au canon, loin devant le tocsin. Dans la cendre des combats de feu, combien de corps étendus semblaient tenir l'Alsace et la Lorraine dans chacune de leurs mains. Ils affrontent le soir de la mort dans la boumoire des tranchées des poilus. Faire des nappes de gaz et des griffes acérées des mitrailles. Sous le déluge de fer et d'éclairs qui hachaient, déchiraient leurs corps fourrus. La guerre a tant mordu dans leur chair qu'elle enlèche encore leurs médailles. Au champ d'honneur et dans l'oubli les poilus. Cette jeunesse innocente qui a mordu la terre au nom de la patrie. Le silence des gerbes de fleurs a gardé l'agonie sous les obus. Et le noir du deuil des mères et des femmes au ventre arrondi. Et le temps qui passe pour passer le vol des corbeaux sur les poilus. dans vos mémoires étroites, faisons une place à la reconnaissance. Ils sont les martyrs d'une terre qui voulait libre jusqu'au fond des nues. Chacun de nous s'y balade en ignorance qu'est la délivrance. Chemin des dames, la terre est brûlée. Tant de prières fermentent dans le repos de Verdun du soldat inconnu. Les sillons ont gardé la douleur et le sang versé. La guerre est ce monstre de feu et d'acier qui nourrit ses charniers.
Couleur FM 97.1, nous venons d'entendre Les Poilus, une chanson écrite, composée et interprétée par Norvats, un groupe de deux musiciens, Michel et Frédéric Stavron.
De plus, le retour au foyer n'est pas toujours pour les enfants l'événement pleinement joyeux auquel on pourrait s'attendre. Pour nombre d'enfants, ceux qui rentrent sont des inconnus, qu'ils doivent apprendre à connaître ou à redécouvrir. Et leur retour perturbe un équilibre, un environnement au sein duquel s'étaient peu à peu construites des relations fortes et fondatrice sans la présence du père. Ce n'est pas tant l'oubli du père auquel les enfants sont confrontés, car ils savent son existence, mais bien davantage sa méconnaissance. Il est revenu très tard, en 1919. Pour ainsi dire, je ne le connaissais pas, je ne me souvenais plus de lui. Je l'ai connu quand j'avais 8 ans et demi, 9 ans, raconte ainsi Robert. Tandis que Jean souligne que ce fut peut-être le drame de l'adolescence de plus d'un garçon de notre âge, de refaire, la guerre finie, une place dans son existence et dans son cœur à ce père presque mort pour lui. Et de ce fait, il arrive que le père soit perçu comme un intrus qui vient déranger la relation entre mère et enfant. Comme pour Simone, qui explique « Quand mon père est revenu, je ne l'ai pas accepté. Pour moi, c'était un intrus. Ma mère, comme elle était toute seule avec moi, elle ne me parlait qu'à moi, elle ne s'occupait que de moi. » Il y avait le grand lit conjugal, bon ben pour plus de sécurité, elle me couchait à côté d'elle. Et quand mon père est revenu, il a fallu que je cède la place. À table, ils avaient 4 ans et demi passés à rattraper. Ils ne parlaient qu'ensemble. Et moi, je n'avais plus mon mot à dire. Et c'est ça qui m'a bouleversée, vraiment oui. Et je me souviens très bien que j'ai reçu 4 fessées dans ma vie, le même soir, parce que je lui ai dit « J'ai prié le bon Dieu pour que tu reviennes de la guerre, je vais prier pour que tu y retournes. » Ben oui. C'était toute une vie organisée qui tout à coup était complètement bouleversée. Même dans le cadre de la famille élargie, encore très présente, on le voit bien, un régime affectif, familial inédit s'est établi durant l'absence des hommes, surtout dans les familles où l'enfant est enfant unique. Comme l'illustre, dans le même ordre d'idée que Simone, cette réflexion du petit Jean, qui demande à sa mère, après le retour du père, « Dis maman, quand est-ce que papa retourne à la guerre qu'on soit tranquille tous les deux ?» Alors ce naïf mot d'enfant, là encore d'un enfant trop jeune pour mesurer la violence de son propos, exprime la relation forte qui s'est nouée entre mère et enfant du fait de l'absence paternelle et qui s'accompagne d'un décloisonnement, voire d'une redéfinition des rôles dans le modèle familial. La distance physique entre les pères et leurs enfants bouscule les fonctions parentales traditionnelles en questionnant l'incarnation exclusive de l'autorité par le père. pour un certain nombre d'hommes, retrouver leur place de père passe alors par une tentative de réaffirmation de ce marqueur identitaire qu'est l'autorité au sein de la famille patriarcale. Et cette reconquête ne va pas toujours de soi. L'historienne Manon Pignot, qui a travaillé sur les enfants pendant la guerre, cite le témoignage de Simone qui raconte la puissance de ce qui s'est joué durant l'absence de son père et à son retour. Simone a 4 mois quand son père part à la guerre. « Je n'avais aucun souvenir, aucune vie avec lui, dit Simone. Et il m'a très encombrée quand il est revenu. Et je n'ai pas accepté son autorité. À la moindre chose qu'il me disait, je répondais, je vais demander à maman. Ah oui, mais même, je ne sais pas comment vous dire, adolescente et par la suite, mon père était un peu comme la notion d'un grand frère, mais pas à l'égal de maman. Et à la question que lui pose Manon Pignot de savoir si son père prenait mal cette perte d'influence, elle répond « Je n'ai pas de souvenir qu'il ait réagi. Je pense maintenant qu'il était peut-être un peu déçu. Il était très sensible. » On voit bien ici que pour la petite Simone, la figure de l'autorité a changé de sexe. Les rôles ont été redistribués durablement. Et en évoquant parallèlement la sensibilité de son père, qualité traditionnellement attribuée aux femmes, elle témoigne d'un glissement, ou plutôt que d'un glissement, d'une non-exclusivité de vertus attachées aux différents sexes dans le modèle familial. De plus, le regard que les enfants portent sur les pères fragilisés interroge le rôle de l'affection dans l'organisation familiale et la représentation de chacun qu'elle contribue à dessiner. Louis, né en 1920, témoigne ainsi. « Je me rappelle, je suis encore tout petit. Je dois avoir 4 ou 5 ans. Je suis tout ensommeillé, blotti dans un crochet de mon lit. Je ne suis pas seul dans la chambre. Mon père est là, couché, au bord du grand lit. Il ne faut pas faire de bruit. Il ne faut pas parler. Il est malade. Ce sont ses abcès, sa blessure, la guerre. » Cette fragilité paternelle a non seulement des conséquences sur les prises de décision dans la famille, comme l'explique Marcel qui se souvient, quand il est revenu, il était quand même bien diminué, mon père. Mon père, ça l'a diminué pour prendre des décisions, vous voyez. Impact sur les prises de décision, mais aussi, cette fragilité induit un regard sur les pères souffrants. Et du coup, fait bouger les formes de l'affection dans l'univers familial et vaciller une nouvelle fois les assignations traditionnelles des sexes. Alors bien sûr, les retours sont multiples et singuliers. Et les historiens savent bien qu'il faut faire attention à la saillance de la douleur, du mal-être, qui laisse beaucoup plus de traces que le bonheur ou la vie ordinaire. Nombre de retours se déroulent dans une joie intérieure profonde, accompagnée d'un optimisme débordant, ainsi que l'écrit une journaliste du magazine féminin Ève, en conclusion d'un concours lancé en 1920 sur le retour des hommes. Voyez donc que la question du retour se pose déjà sur cette période, c'est pas un fantasme d'historien. Et d'autres témoignages signalent simplement que la vie a repris son cours, révélant ici, qui sans doute échappe le plus à l'historien, encore plus que le bonheur, la banalité du retour. Un retour sans fanfare qui se déroule dans une forme d'indifférence. Mais pour tous, la guerre est une césure. Les hommes qui en reviennent emportent l'empreinte et le monde affectif et intime qu'ils retrouvent n'est plus le même. Le retour au foyer ne peut être un retour pur et simple à ce que l'on a quitté. Le choc qui accompagne les retrouvailles souligne l'irrémédiable différence des expériences de guerre que les retours mettent crûment en lumière. Il permet d'approcher ce que l'on pourrait appeler le malentendu du retour. Ce malentendu tient pour beaucoup au décalage entre celui qui est parti et qui revient et celles et ceux qui l'ont attendu. La trompeuse fixité des derniers, ceux qui ont attendu, laisse imaginer une permanence qui autoriserait la volonté de revenir à un ordre intime ancien, et que la coïncidence géographique retrouvée permettrait de vivre à nouveau, dans un foyer auquel la guerre, je le rappelle, a donné de plus un surcroît de valeur. Mais tous ont été transformés par les épreuves. Les changements sont là, même quand ils se nichent, comme l'écrit Verlaine, dans l'odeur fade du réséda. Donc l'idée d'une normalisation, entendue comme un retour à la vie d'avant-guerre, est totalement illusoire. Et en tension avec ce que la période de guerre a donné à vivre et avec les réalités du retour. Les déplacements dans l'ordre familial, les évolutions affectives qui ont eu lieu pendant la guerre se poursuivent après le retour des hommes. La famille, on le sait, est une donnée mouvante, sensible au contexte et au poids des événements qui agissent sur chacun et sur les liens entre ses membres. Et en dépit des discours normatifs dominants dans l'entre-deux-guerres, l'expression de l'adhésion à ces discours, de l'adhésion à la norme, ne signifie pas forcément qu'on s'y conforme totalement au creux des maisons. En d'autres termes, le fait que les valeurs traditionnelles continuent à être reconnues comme légitimes, qu'elles soient même réaffirmées, ne signifie pas que les comportements, les vies, soient en cohérence avec elles, ni que cela n'agisse pas sur l'évidence de leur pertinence. Malgré des permanences lourdes dans la perception des relations hommes-femmes et l'emprise d'un ordre social dont on ne s'affranchit, volontairement ou non, que difficilement et partiellement, quelque chose a changé dans cette société d'après-guerre, qui fait de ces années de transformation à hauteur de famille. des familles qui enregistrent des déplacements identitaires conséquents et se cherchent. Et l'intime est le noyau de ce monde qui bouge, par la force des choses, parce que les corps, les sens, les émotions, les sentiments, les rêves portent au cœur des maisons les expériences de guerre et l'imagination, qu'hommes et femmes s'étaient faites du retour, qu'il faut à présent vivre. Autant d'éléments qui pèsent sur les mécanismes de constitution des subjectivités et qui dessinent des réalités quotidiennes avec lesquelles les hommes et les femmes du passé doivent compter ensemble.
Nous allons nous quitter sur une chanson dont les paroles ont été écrites par Lucien Boyer et la musique composée en 1913 par Camille Robert.
Thank you.
Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.